Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence. Le secrétaire général va faire part de remarques liminaires et puis ensuite, comme de coutume, il sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN aura lieu à Antalya cette semaine et elle intervient à une période très chargée s'agissant des activités de l'OTAN. En effet, aujourd'hui, il y a des troupes venues de l'ensemble de l'Alliance qui s'exercent ensemble pour veiller à ce que notre défense collective soit forte et prête. Dans la mer du Nord, il y a des navires et des sous-marins de 10 pays alliés qui participent à un exercice de grande ampleur. Il s'agit de détecter et de contrer des sous-marins. Cela se fait de concert avec notre partenaire, la Suède. En Estonie, il y a plus de 30 000 troupes de 8 pays de l'OTAN qui participent à un grand exercice terrestre. D'autre part, dans le ciel au-dessus des États baltes et de la Pologne, il y a 4 nouveaux alliés qui viennent de démarrer leur rotation en matière de police du ciel, et ce 24 heures sur 24. Voilà quelques exemples de manières dont l'OTAN assure une dissuasion, dont la manière dont l'OTAN protège ces pays vis-à-vis des différentes menaces d'où qu'elles viennent. Cela vaut pour le domaine maritime, terrestre et aérien. Nos activités sont défensives, elles sont à la juste mesure des enjeux et elles sont transparentes. D'autre part, ces activités font l'objet d'une planification à long terme. Cela étant, ces activités sont d'autant plus pertinentes dans la situation nouvelle qui existe aujourd'hui. La sécurité des alliés est une mission essentielle de l'Alliance. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous mettons en œuvre le plus gros renforcement de moyens en matière de défense collective depuis la fin de la guerre froide. Nous ferons en sorte que l'OTAN reste forte et nous ferons en sorte que notre environnement reste stable. En effet, si notre environnement et le voisinage sont stables, alors c'est notre sécurité qui en sortira grandie. Lorsque les ministres des Affaires étrangères se réuniront en Turquie, on parlera également de ce que nous pouvons faire de plus avec nos partenaires et pour nos partenaires. Travailler avec les partenaires de par le monde permet à l'OTAN de projeter de la stabilité sans projeter des forces. Cela permet également aux partenaires de contribuer à ce que nous faisons. Voilà qui est positif pour l'OTAN et voilà qui est positif pour nos partenaires. En travaillant ensemble, nous créons une plus grande stabilité, une plus grande sécurité pour chacun d'entre nous. L'Ukraine est un partenaire important pour l'OTAN. Il y aura une réunion de la commission OTAN-Ukraine lorsque nous nous retrouverons à Antalya. L'OTAN travaille déjà en étroite collaboration avec l'Ukraine. Nous soutenons les réformes en matière de défense, nous aidons à la mise en place de meilleurs commandements et contrôles et communications, nous aidons à une cyberdéfense efficace et nous travaillons également dans le domaine de la réhabilitation des soldats blessés. Mais à l'est de l'Ukraine, nous voyons davantage de morts et de victimes. Nous voyons une augmentation des violations des accords qui ont été trouvés. Il y a des obstructions par rapport aux observateurs et on constate que les Russes continuent de soutenir des séparatistes. Voilà qui est extrêmement préoccupant, c'est une tendance négative. La pleine mise en œuvre des accords de Minsk continue d'être la meilleure marche à suivre pour arriver à une solution pacifique. La Russie a une responsabilité toute particulière en la matière. C'est la raison pour laquelle nous allons également nous pencher sur les implications stratégiques d'une Russie qui s'affirme. D'autre part, avec nos partenaires internationaux, nous allons nous pencher sur les questions de l'extrémisme et des troubles qui existent à la frontière sud de l'Alliance. Pendant plus d'une décennie, l'OTAN a joué un rôle essentiel pour apporter la stabilité à l'Afghanistan. Et à Antalya, nous allons parler de la manière dont on renforce notre partenariat avec ce pays pour l'avenir. Je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises en matière de conservation d'une présence en Afghanistan, y compris après la fin de notre mission actuelle qui vise à former, entraîner, assister et aider les forces afghanes. Les soldats et les forces de police afghanes font un travail remarquable depuis qu'elles assument la responsabilité de la sécurité, et ce depuis le début de l'année, mais ces forces continueront d'avoir besoin de notre soutien et nous continuerons de nous tenir à leur côté. Sur ce, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Monsieur le secrétaire général, Herman McGregor de Al-Zarija en anglais. La question des migrations. Aujourd'hui, la représentante de l'Union européenne demande un accord de l'ONU pour qu'il y ait des mesures qui soient prises contre ceux qui s'adonnent au trafic de migrants en Libye. Est-ce que c'est un domaine où l'OTAN a un rôle à jouer? Est-ce que c'est un domaine où l'OTAN a été consultée? Est-ce qu'il y a une stratégie en la matière? Est-ce que vous pensez que ceci peut fonctionner? Eh bien, la tragédie humaine qui se déroule dans la mer Méditerranée, c'est une question de migration, c'est une question de maîtrise des frontières, et l'Union européenne a pris l'initiative. Et ainsi, l'Union européenne veut pouvoir donner une réponse plus globale à ce qui se passe dans la mer Méditerranée. Et je soutiens pleinement les efforts réalisés par l'Union européenne. Je soutiens également le dialogue et les consultations qui ont lieu au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'ONU pour essayer de mettre en place un mandat pour ces opérations prévues. D'autre part, je me félicite des efforts réalisés par les Nations unies pour essayer d'arriver à un règlement pacifique de la situation et du conflit en Libye. Il s'agit d'essayer de mettre sur pied un cessez-le-feu. Et d'autre part, il s'agit d'essayer de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Alors, il n'y a pas eu de demande s'agissant d'un rôle militaire pour l'OTAN. Cela étant, je soutiens ces efforts et je me félicite du dialogue qui intervient entre les Nations unies et l'UE. Monsieur le secrétaire général, je rebondis sur la question par propos de la Méditerranée et de la Libye. Est-ce que vous pensez que l'OTAN a un rôle à jouer? Peut-être que l'UE n'a pas formulé de requête, mais personne n'a plus d'avions, n'a plus de bâtiments de guerre que l'OTAN. Alors, est-ce que vous pensez que l'OTAN a un rôle à jouer pour mettre un terme à cette crise humanitaire? Eh bien, je vous renvoie à ce que je viens de dire, à savoir que je soutiens les efforts de l'Union européenne, je soutiens les efforts des Nations unies. Je pense qu'il est très important que l'Union européenne ait la possibilité et la capacité de lancer initiative et que on soit en mesure d'en faire plus. D'autre part, il était très important que les efforts des Nations unies soient couronnés de succès s'agissant du règlement et de la solution pacifique par rapport à ce qui se passe avec un gouvernement d'union et un cessez-le-feu en Libye. Ce que nous avons pu dire côté OTAN, c'est que nous sommes prêts. Nous nous tenons prêts à apporter une aide et une assistance au gouvernement libyen. Nous nous tenons prêts à intervenir lorsque la situation le permettra, lorsque la situation, notamment sécuritaire, permettra de faire ce que l'on appelle le renforcement des capacités de défense. Alors, de par le passé, le gouvernement libyen nous a fait part d'une demande. Nous avons dit que nous étions prêts à aider. Cela étant, il faut que la situation sur le terrain soit meilleure que ce qui est le cas aujourd'hui. D'autre part, je voudrais rajouter que l'OTAN travaille beaucoup sur les causes profondes qui expliquent le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui migrent et qui passent par la mer Méditerranée. En effet, il s'agit de personnes qui proviennent de bon nombre de pays différents. Ainsi, ce que nous avons pu faire pendant des années en Afghanistan, c'est d'essayer de stabiliser ce pays. Aujourd'hui, lorsque nous travaillons avec la Jordanie, lorsque nous apportons une aide en matière de renforcement des capacités de défense, lorsque l'on procède au renforcement des institutions, il s'agit de soutenir la Jordanie. Jordanie qui est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Nous travaillons également avec sept partenaires méditerranéens. Nous travaillons avec eux, nous les aidons. Et tout ça, et on peut y rajouter la lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, ce sont des efforts qui visent à stabiliser la situation et à permettre aux pays d'assumer les responsabilités de leur propre sécurité. Et ainsi, on traite, entre guillemets, les causes profondes qui font qu'il y a un grand nombre de personnes qui quittent leur pays. Un des paquets des NTB. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous soutenez l'initiative de l'Union européenne aux Nations unies. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'une opération militaire en dehors de la Libye pourrait être une bonne idée? Ce que cela veut dire, c'est que je soutiens les efforts de l'Union européenne pour essayer de mettre en place une réaction et des mesures plus globales s'agissant de la tragédie, s'agissant de la crise dont nous sommes les témoins en Méditerranée. Et il y a bon nombre d'éléments différents, s'agissant des plans et des décisions que l'Union européenne essaye aujourd'hui de mettre en œuvre. Une partie des efforts repose sur un mandat des Nations unies et je soutiens le dialogue qui est en cours entre l'Union européenne et les Nations unies pour essayer d'arriver à un accord sur un tel mandat. Ainsi, ce qui sera fait par l'Union européenne se reposera sur un mandat clair des Nations unies. Bonjour. Vous avez parlé des accords de Minsk, alors je voulais vous poser une question sur votre point de vue général par rapport à la mise en œuvre de ces accords. Et est-ce qu'il subsiste un espoir, puisqu'il y a encore beaucoup de violations, un nombre croissant de violations, est-ce qu'il y a encore un espoir que ces accords puissent être mis en œuvre dans leur intégralité? D'autre part, je voudrais savoir quelle est votre évaluation, votre analyse par rapport au renforcement des troupes russes aux frontières. On a entendu pas mal d'éléments à ce sujet, puis bien entendu, il y a eu des commentaires communiqués par les dirigeants tant russes et allemands pendant ce week-end sur la situation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe à ce niveau-là? Merci. S'agissant de l'accord de Minsk, c'est la meilleure voie possible pour arriver à une solution pacifique et négociée s'agissant de la crise en Ukraine et dans l'Est de ce pays. C'est la raison pour laquelle je soutiens tous les efforts qui peuvent être faits pour mettre en œuvre ces accords dans leur intégralité. Et bien entendu, nous sommes préoccupés lorsque nous voyons qu'il y a un grand nombre de violations. On voit des violations s'agissant du cessez-le-feu et j'appelle l'ensemble des parties, les deux parties, à respecter ce cessez-le-feu. Et d'autre part, nous voyons également que lorsque dans les accords de Minsk, on dit que toutes les armes lourdes seront retirées de la ligne de contact, eh bien, on constate que cela ne s'est pas produit dans les faits. Cela constitue également une violation des accords de Minsk. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est bien entendu que le cessez-le-feu soit respecté, que les armes lourdes soient retirées. Mais pour arriver à ce résultat, il est fondamental que les observateurs de l'OSCE aient un accès plein et entier et qu'ils aient également des garanties de sécurité dont ils ont besoin et qu'ils aient les conditions de travail nécessaires pour pouvoir participer à la mise en œuvre des accords de Minsk. Alors, au cours des dernières semaines et derniers mois, on a pu constater que les Russes continuaient d'apporter leur soutien aux séparatistes à coups d'artillerie, à coups d'armement lourd, à coups de défense, de système de défense aérienne avancé, mais également à l'aide de forces. Et il s'agit là aussi d'une violation flagrante des accords de Minsk et c'est la raison pour laquelle nous appelons la Russie à cesser son soutien à l'endroit des séparatistes et à faire tout ce qu'il est possible de faire pour veiller à ce que les accords soient pleinement honorés. Dans l'est du pays, dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes disposent de capacités qui leur permettent de lancer de nouvelles attaques avec un préavis extrêmement court. Ils disposent de ces capacités. Alors, je ne vais pas m'adonner à des spéculations quant à leurs intentions, mais il est clair que ce renforcement de la présence militaire et de ce soutien à l'endroit des séparatistes est une source de préoccupation pour nous. Je m'appelle Saito du média japonais Saiti. Il semblerait que pendant cette réunion des ministres des Affaires étrangères, vous avez peut-être lancé une coopération avec l'Union européenne par rapport à des attaques hybrides. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus s'agissant de ce volet de votre coopération? Eh bien, il me semble qu'il s'agit là d'un domaine où il y a un potentiel très élevé en matière de coopération renforcée entre l'OTAN et l'Union européenne. Je parle donc de la guerre hybride et la manière dont on peut défendre l'ensemble des alliés par rapport à la guerre hybride. La guerre hybride, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de moyens militaires et de moyens non militaires. Il s'agit du recours à des opérations clandestines, il s'agit de la tromperie, du recours aux armements, si je puis dire, économiques, il s'agit de campagnes de désinformation et nous devons avoir une réponse à la hauteur de cette menace. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de moyens militaires et à ce niveau-là, il est évident que l'OTAN dispose de capacités et d'une expérience tout à fait unique en son genre. Mais nous avons également besoin d'autres moyens pour pouvoir protéger nos alliés vis-à-vis de la guerre hybride. On peut penser par exemple aux mesures économiques. Il y a le domaine énergétique ou encore cyber. Voilà donc un domaine où il y a une vraie possibilité de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors je voudrais simplement signaler un certain nombre de points sur lesquels l'OTAN réagit déjà par rapport à cette menace. On a le niveau de préparation de nos forces. Un plus haut niveau de préparation de nos forces est une forme de dissuasion et ça nous permet également de nous protéger contre des attaques parce que le niveau ou le temps de préavis sera raccourci, donc le niveau de préparation est très important. Les forces d'opération spéciales, voilà qui est également très important s'agissant de bon nombre d'aspects de la guerre hybride. Avoir une meilleure connaissance de la situation, une meilleure compréhension de la situation, c'est très important également. Je parle donc ici des questions de renseignement, les drones de surveillance. Nous sommes en train de développer une nouvelle capacité en matière de drones de surveillance et c'est quelque chose qui va être déployé en Sicile. Et donc tout ce qui a trait à la connaissance de la situation est très important pour ce qui concerne la défense vis-à-vis des attaques hybrides. Le dernier point que j'évoquerai, c'est bien entendu celui de la communication stratégique. Il est en effet important d'être prêt, en mesure de contrer ce flot de désinformation que l'on voit associé à ces attaques hybrides. La télévision suisse, vous avez parlé de vos préoccupations par rapport à la Macédoine. Alors, je voulais savoir si l'OTAN va avoir un rôle à jouer, ne serait-ce que dans le suivi de la situation. Et puis, je sais que vous avez déjà beaucoup de pain sur la planche, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui pourrait être évoqué au niveau des ministres des Affaires étrangères? Eh bien, je pense que c'est quelque chose que les ministres des Affaires étrangères aborderont lorsque l'on parlera des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Bien entendu, la situation dans les Balkans occidentaux, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, voilà un dossier qui, j'imagine, sera évoqué par les ministres lorsqu'ils se réuniront dans le courant de la semaine à Antalya, en Turquie. Cela étant, je commencerai par souligner à quel point je me suis attristé par les pertes qui ont été enregistrés et je pense très fort aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches. Je pense que l'ensemble des dirigeants politiques élus ont été très clairs dans leur condamnation par rapport à la violence et je me réjouis de ce fait. Ils ont appelé à ce que tout le monde conserve son calme et son sang-froid et que l'on évite une escalade des tensions. En l'occurrence, la police a été en mesure de gérer la situation. Alors malheureusement, il y a eu des décès, il y a eu des morts, mais les forces de police ont apporté la preuve du fait qu'ils étaient capables de gérer la situation. Nous allons suivre de très près cette situation. Nous avons un bureau de liaison de l'OTAN à Skopje. Il va donc y avoir une réunion dans quelques jours. Voilà qui relève de notre coopération ordinaire, mais bien entendu, à cette occasion, on fera le point sur la situation actuelle et la manière dont celle-ci est gérée. Je pense en outre qu'il est très important d'entretenir des relations étroites entre Skopje et Pristina. Et je souhaite qu'il y ait une enquête transparente quant à ce qui s'est passé pour que l'on puisse faire tout notre possible pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Il faut éviter qu'il y ait de nouveau recours à la violence Et on veut continuer à travailler avec l'ex-République yougoslave de Macédoine dans le cadre du plan d'action pour l'adhésion que nous avons mis en place et sur lequel nous travaillons. L'agence Kuna du Koweït. Quel sera le message des ministres des Affaires étrangères par rapport aux développements régionaux? Je parle de la Syrie, de l'Irak et la lutte contre Daesh. Ensuite, quel sera le point de vue ou quel est le point de vue de l'OTAN par rapport à ce qui se passe au Yémen? Merci, monsieur. Je commence par le Yémen. Nous soutenons les efforts des Nations Unies en vue de trouver une solution politique afin de mettre un terme à la violence et pour porter un concours à cette situation humanitaire, aider les personnes qui souffrent au Yémen du fait des combats, du fait des violences qui sont en cours. Comme vous le savez, l'ensemble des alliés de l'OTAN participent d'une manière ou d'une autre à la coalition contre Daesh. Certains participent aux frappes aériennes, d'autres pays participent par d'autres biais. Et une des raisons pour lesquelles la coalition peut fonctionner, c'est parce qu'il y a bon nombre d'alliés de l'OTAN et bon nombre de partenaires qui, au cours des années, notamment en Afghanistan, ont réussi à développer un fort niveau d'interopérabilité. Donc les forces de l'OTAN, les forces de l'OTAN aux côtés des pays partenaires sont à présent arrivées à un niveau d'interopérabilité qui fait qu'ils sont aujourd'hui en mesure de travailler en étroite collaboration dans des coalitions telles que la coalition contre Daesh. Et donc, même si l'opération en tant que telle n'est pas une opération menée par l'OTAN, les alliés de l'OTAN participent, les alliés de l'OTAN contribuent, et ceci est vraiment directement lié à cette interopérabilité qu'on a pu développer au fil des années. C'est grâce à cela que la coalition arrive aux résultats qu'elle enregistre. La principale responsabilité de l'OTAN est de protéger et de défendre l'ensemble des alliés. C'est la raison pour laquelle nous avons déployé des missiles Patriot, des missiles et des systèmes de défense antiaérien en Turquie. Il s'agissait de renforcer les défenses antiaériennes de la Turquie. C'est également la raison pour laquelle nous augmentons le niveau de réactivité et de préparation de nos forces. Nous devons être en mesure de nous déployer, de réagir avec un préavis très court. Et c'est également la raison pour laquelle nous augmentons nos capacités en matière de connaissance de la situation, de compréhension de la situation. Nous devons suivre et comprendre ce qui se passe, non seulement pour ce qui concerne l'Est, mais également pour ce qui concerne le Sud. Ensuite, non seulement nous nous tenons prêts, mais nous sommes actuellement en train d'étudier une demande de la part du gouvernement irakien pour qu'une initiative en matière de renforcement des capacités de défense soit mise en place. Il s'agit donc de réformer les institutions de défense. Il s'agit des questions d'entraînement, de conseil, d'éducation, de formation. C'est une requête que nous étudions à l'heure actuelle et nous espérons pouvoir y donner suite rapidement, donc dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Depuis la dernière fois que nous vous avons vu ici, il y a eu de nouveaux incidents avec des sous-marins. Il y a eu des tirs de la part de Finlandais par rapport à ce qu'ils pensent être peut-être des sous-marins russes. On a également parlé d'incidents possibles dans les eaux britanniques. Et puis, il y a également eu des incidents au niveau des vols. Et on a demandé aux États-Unis à préparer un rapport quant au caractère dangereux de ces quasi-accidents. Alors, dans le rapport, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de la Russie, mais on dit quand même que l'échange d'informations doit être amélioré. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne également l'OTAN? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas plus d'informations de la part de la Russie au sujet de ces vols? Et dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il est prévu d'avoir plus de communication avec la Russie? On avait parlé de réouvrir des lignes de communication qui avaient peut-être était un petit peu laissé de côté pendant le conflit avec l'Ukraine. Eh bien, je crois que le rapport de l'Agence européenne de sûreté aérienne est un rapport très important. En effet, dans ce rapport, on parle des risques de cette augmentation des activités aériennes. C'est un thème sur lequel l'OTAN a eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises. Dans un premier temps, nous avons invité la Russie à veiller à ce que lorsqu'ils sont des exercices, et lorsqu'ils ont tout à fait le droit d'ailleurs de réaliser de tels exercices, à l'instar de n'importe quel autre pays, et eh bien qu'ils doivent le faire dans le respect du trafic civil. Et en fait, dans son rapport, l'Union européenne ou l'Agence européenne a félicité l'OTAN quant à la manière dont elle procède en la matière. Alors évidemment, nous allons nous repencher sur nos procédures, nous allons veiller à ce que nous les mettions en œuvre de la meilleure manière possible afin d'éviter tout conflit, toute opposition entre l'aviation civile et l'aviation militaire. Et nous invitons l'ensemble des pays à procéder de la sorte et à veiller à ce que lorsqu'il y a des exercices, eh bien que ce soit fait de telle sorte que l'on ne crée pas de risque par rapport à la circulation aérienne civile. Donc je crois que le rapport sera étudié de manière détaillée. On y donnera suite pour veiller à ce que l'on réduise le risque d'incident ou d'accident, autant que faire que se peut. Ensuite, il y a des lignes de communication et elles vont continuer à rester ouvertes, ces lignes de communication entre l'OTAN et la Russie, et notamment les autorités militaires russes. Le SACEUR, tout comme le président du comité militaire de l'OTAN, ont un mandat qui leur permet de contacter directement leurs homologues russes. De surcroît, il y a des contacts bilatéraux entre les alliés de l'OTAN et la Russie. Et je crois que s'agissant de ces lignes de communication, faire en sorte que ces lignes de communication restent ouvertes et faire en sorte qu'elles fonctionnent en sorte qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quelque chose qui a toujours été important, mais ça l'est peut-être davantage encore aujourd'hui parce qu'il y a plus de trafic aérien, plus d'avions russes dans le ciel, et donc le besoin par rapport à ces lignes de communication est d'autant plus élevé. Déjà, il faut veiller à ce que des incidents ou des accidents ne se produisent pas. Et si d'aventure il devait y avoir un incident ou un accident, eh bien, il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'escalade des tensions. Ian Kruff de la Reuters, deux questions sur l'Ukraine. Le général Breedlove a dit au Congrès américain à la fin du mois d'avril que les militaires russes étaient peut-être en train de profiter de la réduction des opérations en Ukraine pour préparer une nouvelle offensive. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble vraisemblable? Et puis, deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères Lavrov et Kerry vont s'entretenir à Sotchi. Est-ce que vous pensez que cette réunion pourrait donner lieu à des avancées? Dans mes remarques liminaires, ainsi que dans mes réponses à d'autres questions, j'ai indiqué les choses suivantes. Il y a eu un renforcement de la présence russe, à la fois le long de la frontière russo-ukrainienne, mais également en Ukraine, dans l'est du pays. Il y a eu une arrivée régulière de matériel lourd, d'artillerie, de munitions, de systèmes de défense aérienne et beaucoup d'entraînement. Donc il y a une capacité à lancer de nouvelles attaques. Et ce, avec un préavis extrêmement court. Alors, bien entendu, on ne saurait avoir de certitude s'agissant des intentions. Mais, en tout état de cause, nous appelons les Russes à cesser leur soutien aux séparatistes, car c'est une violation des accords de Minsk, et on leur demande de arrêter de soutenir les séparatistes et de respecter la frontière entre l'Ukraine et la Russie. On demande à la Russie d'utiliser toute son influence pour veiller à ce que les séparatistes, eux aussi, respectent et mettent en œuvre les accords de Minsk. Et la simple existence de ces forces à la frontière, mais également dans l'est du pays, c'est en tant que telle une violation des accords de Minsk, mais c'est également une forme d'intimidation. C'est une manière de mettre la pression sur Kiev et sur l'Ukraine. Donc c'est un problème en tant que tel. À propos de l'entretien entre le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, et M. Kerry, cela fait partie de consultations et des contacts du dialogue politique qui intervient entre les États-Unis et la Russie, mais également entre plusieurs alliés et la Russie. Il y a plusieurs alliés à l'OTAN qui ont organisé des réunions politiques avec des dirigeants russes. Et c'est quelque chose qui est également en phase avec ce qui a été décidé par l'OTAN. Nous avons décidé de suspendre toute forme pratique de coopération, mais nous faisons en sorte que les canaux de communication restent ouverts. Donc tout ceci fait partie de consultations en cours qui interviennent entre les alliés de l'OTAN et la Russie, mais également entre l'Alliance en tant que telle et la Russie. Et je me félicite de la tenue de discussions politiques. Mais comme j'ai pu l'indiquer à plusieurs reprises déjà, il n'y a pas de contradiction entre une défense forte et le dialogue. Au contraire, pour ma part, je crois qu'une défense forte, une prévisibilité, une approche ferme constituent une condition préalable pour qu'il puisse y avoir un dialogue politique. Je suis de Kyodo News au Japon. J'ai une question au sujet de l'Afghanistan. Vous allez donc parler des mesures de soutien au-delà de la mission Resolute Support. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus s'agissant de l'analyse de l'OTAN qui vous a amené à tenir ce débat, tenir cette discussion? Quelles seraient les échéances, les perspectives en matière de durée dans le temps d'un tel soutien? D'autre part, à Antalya, est-ce que vous allez aussi aborder la question du prolongement du soutien financier aux forces afghanes? Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier le Japon pour ses importantes contributions aux efforts de l'OTAN en Afghanistan. Je voudrais également remercier le Japon de son engagement et de son soutien à l'endroit des forces de sécurité nationale afghanes. Votre pays a vraiment fait part d'un soutien significatif. Et nous vous en sommes reconnaissants. Il y a trois éléments au moins sur lesquels nous devons nous pencher. Tout d'abord, la durée de Resolute Support. Il n'y a pas eu de décision officielle quant à la durée de cette mission Resolute Support. Les États-Unis ont été très clairs et ont annoncé que la participation de ce pays prendrait fin à la fin 2016. C'est évidemment un élément qu'il faut prendre en considération lorsque, à l'OTAN, on prend une décision sur la durée de Resolute Support. D'autre part, il y a deux autres questions sur lesquelles nous allons nous pencher lors de notre réunion à Antalya. Tout d'abord, il y a la question de savoir ce que l'on fait après avoir mis un terme à la mission Resolute Support. Et il y a eu des décisions. On a dit que par la suite, il y aurait ce qu'on appelle le partenariat durable. Mais on n'a pas encore abordé de front la question du contenu de ce partenariat. Donc à présent, il faut démarrer le travail sur le contenu de ce partenariat à long terme avec l'Afghanistan. Et comme vous le savez, les partenariats de l'OTAN avec d'autres pays sont très diversifiés. Pour certains pays, il y a simplement un dialogue politique. Dans d'autres pays, un partenariat va reposer sur des éléments de fond, par exemple une présence civile ou militaire. Donc il faut que des décisions soient prises pour commencer à mettre en place des orientations s'agissant du contenu, quel va être l'ampleur, quelle va être l'échelle de ce partenariat durable avec l'Afghanistan. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des décisions définitives qui seront prises à Antalya sur ce dossier. Cela étant, donc je le disais, il y aura des orientations, il y en aura des décisions qui seront prises en matière de périmètre et en matière de contenu lors de notre sommet à Varsovie. Troisième élément, c'est celui de ce soutien financier à l'endroit des ANSF, des forces de sécurité nationales afghanes. Ces forces de sécurité sont à présent vraiment responsables de la sécurité en Afghanistan. Ces forces sont en train d'apporter des preuves de leur capacité, mais ces forces enregistrent également des pertes importantes et la situation est évidemment extrêmement difficile en Afghanistan. Donc, même au-delà de l'horizon 2016-2017, ces forces auront besoin de notre soutien économique. Et donc, bien évidemment, il faudra que l'on voit comment on souhaite relever ce défi-là. Alors là non plus, je ne pense pas qu'il y aura de décision à Antalya, mais le débat doit démarrer sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et les conclusions, là aussi, interviendront lors du sommet à Varsovie l'an prochain. Oui, merci. Monsieur le secrétaire général, Ciudad de Puebles, l'agence espagnole. Alors, vous avez parlé du fait qu'on ait besoin d'une meilleure situation de sécurité sur le terrain en Libye. Est-ce que vous envisagez de lancer une mission d'entraînement ou de formation? J'avais cru comprendre que ce n'était pas prévu par rapport au gouvernement précédent. Et puis, deuxième question, s'agissant de la force de pointe, est-ce que vous envisagez un scénario où on pourrait avoir recours à cette force dans le sud? Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que l'Alliance se fasse responsable de la lutte contre Daesh, puisqu'il y a déjà eu quelque chose de similaire en Afghanistan? Bien, tout d'abord, je crois qu'il faut être très clair. S'agissant de... Pour cette force de pointe, il y a donc cette force qui fait partie de la VGTF, c'est simplement un élément parmi d'autres. En fait, nous sommes en train de doubler la taille de notre force de réaction. Et donc, un élément, c'est ce qu'on appelle en anglais la spearhead force ou la force de pointe. Et c'est quelque chose que l'on peut utiliser contre n'importe quelle menace, d'où qu'elle vienne. On est disposé à l'utiliser par rapport à une menace ou par rapport à des alliés à l'est, au sud ou ailleurs. Cela étant, il y a une différence entre défendre le territoire de l'OTAN et puis de sortir du territoire OTAN. Et la principale responsabilité de l'OTAN, notre mission essentielle, c'est donc de protéger tous les alliés par rapport à n'importe quelle menace. C'est la raison pour laquelle nous développons cette force, c'est la raison pour laquelle nous renforçons le niveau de préparation, et ça vaut également pour protéger les alliés au sud. Et il va y avoir un grand exercice, un plus grand exercice depuis fort longtemps, et c'est un exercice sur lequel on va notamment s'appuyer sur cette force intérimaire de pointe. Et cet exercice aura lieu en Espagne, en Italie et en Portugal. Je crois que cela illustre le fait que ce sont là des forces qui peuvent être utilisées à la fois à l'est, mais également au sud. Enfin, s'agissant de la mission en Libye, ce qui a été indiqué par l'OTAN, c'est que nous nous tenons prêts à faire du renforcement de capacités de défense. Il s'agit donc d'entraînement, de conseils, d'assistance, réforme de la défense, renforcement des institutions. Il y a donc différents volets que l'on peut envisager à ce niveau-là. Mais bien entendu, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que nous revenions lorsque la situation le permettra, lorsqu'on pourra s'asseoir et avoir une discussion à propos des différents volets d'un tel dossier pour un paquet de renforcement des capacités de défense en Libye. Mais par rapport à la situation actuelle, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous soutenons si fortement les efforts entrepris par les Nations Unies, par M. Léon, des efforts qui visent à arriver à une solution pacifique négociée, puisque à la suite de cela, la communauté internationale, dont l'OTAN, pourront intervenir pour aider à stabiliser la Libye, pour aider la Libye à aller de l'avant. Une toute dernière question. Oui, je voulais simplement rebondir par rapport à la question afghane. Vous avez dit que les partenariats pouvaient être politiques ou militaires. Est-ce que vous considérez qu'il faut encore qu'il y ait une présence militaire en Afghanistan après la fin de la mission Resolute Support? Eh bien, je crois que je pourrais vous donner une réponse beaucoup plus précise après la réunion des ministres des Affaires étrangères. C'est justement un point qu'il faudrait que l'on aborde sur la base d'un rapport qui nous a été soumis, sur la base de recommandations qui nous ont été transmises. À la suite de cela, j'espère que nous serons en mesure de convenir d'orientation donc lors de la ministérielle de cette semaine, justement pour ce qui concerne l'élaboration du contenu du partenariat durable avec l'Afghanistan. Et une des questions, un des paramètres par rapport à cette relation à long terme avec l'Afghanistan, c'est justement de savoir si ce sera une présence qui sera à la fois militaire et civile ou exclusivement civile. La question sera aussi de savoir si ce sera mené, conduit par les militaires ou par les civils. Mais encore une fois, ce sont des questions sur lesquelles on pourra discuter lors de la réunion et j'espère donc pouvoir vous donner une réponse plus précise dans le courant de la semaine. Merci infiniment de votre attention. Bonne journée.